Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Ovin et Elliot Baucher. À la réalisation, Anne de Pelchin, à la technique, Alex Dang.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Nous entamons aujourd'hui une nouvelle série consacrée aux promesses du développement, un concept élaboré dans les années 50 et qui a essaimé durant toute la seconde moitié du XXe siècle. Comment amener les pays nouvellement indépendants sur le chemin de la prospérité ? La question n'a cessé de diviser les théoriciens, de Rostow à Hirschman. Demain, on se demandera si le protectionnisme est une étape obligatoire du développement. Mercredi, on explorera les voies d'une possible émergence verte avant de nous pencher sur le rôle de premier plan joué par les femmes. Mais d'abord, revenons au temps des pionniers du développement. Vous écoutez France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Nous allons assister à la naissance de l'économie du développement en compagnie d'Annie Cotte, économiste, professeur de sciences économiques à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Avec nous également Rémi Basilier, économiste, directeur du master économie du développement à l'université Paris 1. À 14h50, Xavier Martinet nous rejoindra pour nous donner, comme chaque jour, des nouvelles de l'écho.
This is the first intercontinental conference of colored peoples in the history of mankind. I am proud that my country is your host. It is a new departure in the history of the world that leaders of Asian and African peoples can meet together in their own countries to discuss and deliberate upon matters of common concern. In spite of diversity that exists among its participants, let this conference be a great success.
Bonjour, Annie Cotte et Rémi Basilier.
Bonjour.
C'est la voix de Sukarno, le premier président de la République d'Indonésie, que l'on vient d'entendre. Discours prononcé lors de la conférence de Bandung en avril 1955, la première conférence intercontinentale des gens de couleur dans l'histoire de l'humanité, selon les mots du président du pays hôte. C'est dans ce contexte géopolitique, celui des indépendances et de l'émergence de l'entité politique du tiers-monde qu'apparaît l'économie du développement, Rémi Basilier.
Tout à fait, c'est un contexte historique bien particulier avec l'émergence de nouveaux États, dans une logique aussi d'après-guerre dans lequel deux blocs vont rapidement se mettre en place et ces pays, dans un processus de décolonisation, vont chercher à trouver les moyens d'affirmer leur indépendance du point de vue économique. Avec une première question qui se posera en termes de priorité de politique économique, c'est finalement comment rattraper un niveau de richesse qui est celui des pays industrialisés et comment trouver les voies, en prenant en compte les spécificités de ces pays, comment trouver les voies pour affirmer cette autonomie et cette indépendance économique.
Alors il va y avoir la question du modèle de développement qui va se poser en effet, et du côté des pays industrialisés, il y a la crainte de voir ces anciennes colonies tomber dans le giron communiste, une crainte qui est de nature politique mais aussi économique, Annie Cotte.
Oui, tout à fait. Il y a plusieurs sous-domaines qui se constituent de manière spécifique après la Deuxième Guerre mondiale, la théorie des jeux, l'économie expérimentale et l'économie du développement. Alors jusque-là, on ne parlait pas de développement. La première fois que le terme sous-développement a été utilisé, c'était par Harry Truman dans un discours de 1949. Et ce nouveau domaine va se constituer autour de quatre grands enjeux. Premièrement, un nouvel objet épistémique, le développement. Ça n'existait pas. On parlait de croissance, on parlait d'état stationnaire, de crise, mais pas de développement. Donc le développement et le sous-développement. Un corpus analytique qui très rapidement va devenir spécifique, après avoir commencé par essayer d'adapter les grands thèmes de l'économie standard, d'autres catégories, d'autres modes de raisonnement vont se développer. une institutionnalisation qui va venir très vite, avec des codes dans les grandes revues américaines, avec des cours, avec des prix de la Banque de Suède en mémoire d'Alfred Nobel. Donc le métier d'économiste du développement qui n'existait pas va commencer à exister. Et puis un domaine d'application qui sont ces sociétés périphériques, qui sont liées à la décolonisation, comme le disait Rémi, mais qui sont aussi des sociétés qui étaient indépendantes depuis longtemps, comme les pays d'Amérique latine.
Alors on va détailler effectivement toutes ces dimensions, et c'est important de s'arrêter sur ce terme de développement, en effet, Rémi Basilier, car cette notion de développement, elle va justement se démarquer de celle de croissance.
Alors, on part aussi de cette économie de la croissance, dans le sens où il y a quand même cette idée, en tout cas au début de l'émergence de cette discipline, que l'objectif principal doit être de rattraper un niveau de revenus tels que peuvent le connaître les pays développés. Effectivement, rapidement, les économistes du développement vont s'intéresser aux spécificités qui font les caractéristiques institutionnelles, sociales, culturelles, historiques, qui vont faire de ces pays des contextes d'études et des pays d'études spécifiques. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on va aller au-delà de l'économie de la croissance pour s'intéresser du coup à des mécanismes propres leur permettant d'assurer le décollage économique.
Ces populations, mises au contact avec le progrès, sont envahies d'un désir croissant de voir s'élever leur pauvre niveau de vie dans un monde où certains sont en pleine prospérité. On se résigne de plus en plus difficilement à ne pas manger à sa faim, à souffrir des intempéries, à périr dans les épidémies, à végéter dans l'ignorance. Et on veut avoir à son tour des terres bien cultivées, des mines, des usines, des routes, des chemins de fer, des ports, des avions, des bateaux, des écoles, des universités. Et comment les avoir sans le concours administratif, financier, économique, technique de ceux qui en ont les moyens? Et alors, au fur et à mesure qu'on s'affranchit, on a besoin de l'aide des autres. Il n'y a là rien que de très humain, c'est-à-dire de très naturel et de très avouable.
Le général de Gaulle, lors d'une conférence de presse sur la décolonisation le 10 novembre 1959, on entend bien ici cette idée d'un nécessaire rattrapage qui suppose, dans la théorie économique dominante, que les anciennes colonies suivent le modèle de développement des pays industrialisés, Annie Cotte.
Oui, c'est la théorie caricaturale de Walt Whitman Rostow, qui intitule son ouvrage « Les étapes de la croissance économique, un manifeste non communiste ». L'ouvrage date de 1960, donc on est dans la guerre froide et il y a cet enjeu politique essentiel qu'évoquait Rémi tout à l'heure, qui est que ces nouvelles économies décolonisées ne doivent pas tomber dans les bras, ne doivent pas se jeter dans les bras des pays communistes, des puissances communistes. Alors la théorie qu'on appelle du décollage ou du take-off, elle distingue 5 étapes, peu importe la société traditionnelle, les préconditions du décollage, le décollage, la marche vers la maturité et l'âge de la consommation de masse, et présuppose que la révolution industrielle européenne doit servir de modèle à l'ensemble de ces pays qui sont considérés comme sous-développés, c'est-à-dire en retard. Alors très très vite, ça va être critiqué par un historien, Gershon Kron, qui lui a regardé de près et dit que ce modèle n'a rien d'universel et qu'il faut s'arrêter aux spécificités de chaque pays.
Cette théorie économique dominante qui est aussi proche des études économiques coloniales qui trouvent d'autres raisons à l'absence de développement que la colonisation, justement, Rémi Basilier.
On va mettre le doigt sur toute une série de caractéristiques propres. Effectivement, les conditions liées au climat, par exemple, ça va être la raison la plus évidente, la première, mais c'est pas forcément la plus importante. Même dans ce champ qui a pu précédé sur les études coloniales, il y a malgré tout le rôle de la colonisation en tant que telle, qui est en tout cas dans ces pays-là, a bouleversé un certain nombre de structures sociales, a aussi désorganisé une structure productive qui pouvait s'organiser de manière différente, et qui vont apparaître aux yeux des différentes générations d'économistes du développement comme étant des blocages qui empêcheront à ces pays, en tout cas, d'accéder au développement tel qu'on pourrait le définir d'une manière large.
Mais on voit qu'il y a deux visions qui s'opposent ici entre la nécessité de considérer que la colonisation est une donnée qui empêcherait d'assimiler le sous-développement des pays du tiers-monde aux économies pré-capitalistes de l'Europe, et ceux qui au contraire ne considèrent pas que la colonisation est un élément, un facteur essentiel, Anicott.
Oui, alors il y a très clairement deux visions qui vont marquer cette première étape qui va jusqu'à la fin des années 60, donc de la Deuxième Guerre mondiale à la fin des années 60. Une vision qui ne s'intéresse pas trop à l'histoire, qui adapte simplement les outils de la théorie économique de l'époque au phénomène de dualité entre un secteur formel, un secteur informel, au phénomène de dépendance dans les relations internationales et dans les relations de commerce international, et un autre groupe plus institutionnaliste, plus hétérodoxe, qui va rejeter cette idée qu'il y a une continuité entre les économies occidentales et les pays du tiers-monde, et entre la colonisation et la décolonisation, pour essayer de forger de nouveaux instruments.
Vous parlez de dualisme, Anicott, et il faut s'arrêter ici sur la pensée du Britannique Arthur Lewis, une pensée qui mérite qu'on s'y intéresse. Dans les années 50, il tente de comprendre pourquoi certaines économies ne parviennent pas à se développer. En quoi consiste justement cette analyse du dualisme des économies en développement, Rémi Basilier ?
On a ici quelque chose qui est très intéressant, c'est l'idée qu'il puisse coexister au sein d'un même pays, deux secteurs, deux champs, deux parties de l'économie qui vont fonctionner selon des règles extrêmement différentes. Et donc Lewis va distinguer l'économie dite traditionnelle ou le secteur traditionnel du secteur moderne. Le secteur moderne fonctionne, lui, avec des règles de marché qui vont s'approcher de celles qu'on peut connaître dans les pays développés. Mais l'existence même de ce secteur traditionnel, qui a des caractéristiques très, très spécifiques, donc en gros on parle d'agriculture de subsistance notamment, qui occupe l'essentiel de la main d'œuvre aussi dans les pays en développement, fournit au secteur moderne une main d'œuvre qui va être potentiellement illimitée et qui permettra aux capitalistes du secteur moderne de pouvoir continuer à verser des salaires qui vont être très faibles dans le secteur moderne et donc de dégager du profit. Ce qui ne colle pas, on va dire, une analyse néoclassique standard dans lequel les règles de fonctionnement des différents secteurs de l'économie font que forcément les salaires dans les différents secteurs vont finir par s'égaliser.
Et c'est pour cela, Anicott, que Arthur Lewis promeut l'exode rural et explique que pour lui, développement urbain et développement rural vont de pair, qu'il ne faut pas les opposer.
Il ne faut pas les opposer et qui donc vont conduire Lewis à cette notion centrale qui sera critiquée par Hirschman, par Myrdal, par d'autres, de croissance équilibrée. L'idée étant qu'il faut que le secteur rural, le secteur urbain et les différents secteurs industriels, qu'il s'agisse du côté de l'offre ou de la demande, connaissent une croissance équilibrée.
Écoutons justement ce qu'écrivait Lewis après avoir reçu le prix Nobel d'économie en 1979.
Dans les années 50, nous n'étions pas seulement obsédés par la taille correcte du secteur industriel, mais aussi par le financement de la modernisation. Cette seconde obsession était partagée par beaucoup, mais nullement prédominante partout. La démarche de nombreux économistes plus âgés était que le capital mondial est rare et qu'il devait être investi là où il serait le plus rentable. Si c'était dans les pays riches, tant pis pour les pays pauvres. D'autres économistes pensaient que la masse de capitaux requise ne poserait pas de problème parce que la capacité de les absorber se révélerait faible. Même Myrdal affirmait à qui voulait l'entendre que la capacité d'absorption était faible. Je n'ai jamais pris au sérieux toutes ces déclarations sur la capacité d'absorption parce que ma mère m'avait inculqué un principe qui voulait que si les autres étaient capables de faire quelque chose, nous aussi étions capables de le faire.
Rémi Basilier, au cœur de la réflexion d'Arthur Lewis, ce qu'on entend ici, c'est que se trouve cette question notamment du financement du développement, et c'est une question qui va être absolument essentielle dans les réflexions ultérieures.
Évidemment, pour diverses raisons, les pays dits en développement vont faire face à des contraintes de financement. Et donc, c'est dans la théorie, des différentes théories de la croissance de l'époque, on va considérer que ces contraintes de capital vont justifier des apports de capitaux extérieurs. Ce qui va être intéressant ici dans la pensée de Lewis, c'est de montrer comment un processus de changement structurel, c'est-à-dire de changement de structure de la société, de transformation transfert d'une partie de la main-d'œuvre du secteur traditionnel vers le secteur moderne va permettre d'auto-alimenter ce processus d'accumulation et donc va permettre finalement au secteur moderne de se développer. Ce qui pose énormément plein de questions, notamment sur le développement rural. Lewis avait peut-être cette vision un peu simpliste qui considérait que la productivité dans le secteur rural était nulle. C'est-à-dire qu'on pouvait enlever des travailleurs agricoles sans baisser la production. Et ça, ça a pu avoir des conséquences aussi très graves, parce que ça a amené un certain nombre de pays à délaisser complètement aussi le secteur agricole. Mais en tout cas, il y avait cette idée intéressante que le développement était plus qu'un phénomène d'injection de capital ou d'investissement, mais que c'était aussi un processus de transformation structurelle, bien au-delà aussi de la simple accumulation du capital.
Et qu'est-ce qui explique, comment est-ce qu'on explique alors à l'époque le manque d'investissement? Est-ce que c'est notamment un manque d'épargne? Est-ce que c'est le principal élément, Anicote, le manque d'épargne des habitants dans ces pays?
Alors c'est une autre théorie qui est développée notamment par Nurse, ce qui est la théorie des cercles vicieux, consistant à dire le revenu est faible, donc il n'y a pas d'épargne, donc il n'y a pas d'investissement, donc il n'y a pas de croissance productive, donc le revenu est faible. Ces deux analyses vont converger en reprenant une théorie qu'on a appelée la théorie du Big Push de Paul Rosenstein-Rodan, qui avait été émis 10 ans auparavant, en 1943, consistant à dire, pour sortir du sous-développement, le terme était encore une fois utilisé à l'époque, il faut un investissement massif, décisif, des pays du centre, des pays industriels, dans les pays du tiers-monde.
Et alors en quoi la vie et le parcours d'Arthur Lewis, pour finir un petit peu sur la pensée de cet économiste britannique, en quoi sa vie et son parcours, Rémi Basilié, permettent de mieux comprendre sa pensée? Il a un parcours très spécifique.
Comme beaucoup d'économistes du développement, effectivement, c'est aussi des en développement, il y a un lien avec l'action politique, avec le conseil aussi aux différents gouvernements qui va être peut-être plus important que dans d'autres disciplines. Ce lien entre la théorie, la situation réelle des pays et les différentes préconisations des politiques publiques va aussi jouer un rôle plus important dans la réflexion de ces théoriciens, on va dire du développement.
C'est intéressant de voir, Nicole, qu'il y a des liens très forts entre ces théoriciens du développement et les dirigeants politiques, et qu'ils assument une identité politique, un positionnement politique.
C'est plus qu'un positionnement politique, c'est un engagement. Quand on prend les premiers théoriciens, on a parlé de Lewis, il a eu le prix Nobel, enfin le prix de la Banque de Suède, etc. Le prix Nobel, en même temps que Theodor Schultz, qui lui mettait l'accent sur l'agriculture. Donc les deux théoriciens, parmi les deux premiers théoriciens du développement, ils n'étaient pas d'accord. Mais ils avaient tous une relation extrêmement forte avec ces pays. Si je prends la génération des Albert Hirschman, des Harvey Lippenstein, ils sont allés passer plusieurs années dans les pays du Sud, en Amérique latine, très exactement en Colombie pour Hirschman, en Afrique pour Lippenstein, et ils sont revenus avec la nécessité de construire une nouvelle théorie, une nouvelle représentation de ces pays pour justement faire changer les politiques.
Alors on va parler d'un autre économiste qui est absolument essentiel et qui constitue peut-être une nouvelle génération, comme vous le disiez, Anicote, c'est Gunnar Myrdal qui va obtenir lui aussi l'équivalent du prix Nobel d'économie. On écoute un extrait de l'un de ses textes.
Au début de mes recherches sur les problèmes de développement des pays sous-développés, j'ai soutenu sans réserve l'idée que les pays développés devaient leur accorder une aide financière pour faciliter leur développement. Dans mon propre pays, la Suède, j'ai milité activement en faveur d'un programme d'aide relativement généreuse et inconditionnelle. Tout problème politique pose, au fond, une question de morale, et les questions relatives à l'aide relèvent essentiellement d'un jugement moral. Lorsque j'en vins à aborder le problème de l'immense pauvreté des pays réellement sous-développés à l'extérieur de l'Europe, il n'est pas étonnant, étant donné mon passé dans la vie politique suédoise, que j'ai considéré leur sous-développement économique comme un problème d'inégalité dans la répartition internationale. Nous devions nous efforcer de créer un monde de plus grande solidarité, tout comme j'avais activement contribué à rapprocher la Suède de l'idéal d'un état de bien-être.
Extrait d'un essai de Gunnar Myrdal, publié en 1988, et lu ici par Antoine Beauchamp. Que vous inspirent ces propos, Rémi Basilié ?
Ce qui est très intéressant, c'est qu'il va mettre l'accent sur quelque chose qui va être, dont on va s'apercevoir de l'importance en économie, qui est le rôle des institutions dans le développement. Et pour comprendre le fonctionnement des institutions, il faut comprendre le contexte des pays dans lesquels ces institutions sont mises en œuvre. Ces institutions peuvent être des institutions formelles, des institutions politiques, légales, mais c'est aussi des institutions informelles et des règles, des fonctionnements de la société qui peuvent différer en fonction, encore une fois, d'une histoire commune, en fonction de règles de solidarité qui peuvent être différentes. Donc ça, c'est vrai, c'est quelque chose qui va être aussi très moderne et prendre beaucoup d'importance dans les décennies qui suivront dans l'analyse du développement, qui va un petit peu à l'encontre des politiques néolibérales qui assument le fait que finalement les mêmes recettes vont fonctionner quel que soit le contexte. Mais la prise en compte de ce contexte institutionnel ici donne une spécificité à l'économie du développement qui ensuite irriguera d'autres champs de l'économie. Puis la deuxième chose, si je peux me permettre, c'est vraiment le rôle très fort des inégalités et de la question de la distribution du revenu. Donc on est déjà dans une conception de l'économie dans laquelle on ne va plus mettre l'accent seulement sur la croissance, comme, encore une fois, comme logique d'amélioration, d'élévation du revenu, mais la question de la répartition de la croissance ou la répartition ici de la richesse va jouer un rôle très important dans l'analyse. Et ça encore, c'est des choses qui sont très modernes et qui renvoient à un certain nombre des thématiques actuelles.
Cette question de la répartition des richesses, c'est quelque chose de très nouveau, Nicole.
Oui, je voulais juste revenir sur la notion d'institution. Ce qui est important chez Myrdal, c'est que c'est l'institutionnalisme au sens propre des premiers institutionnalistes américains, c'est-à-dire la prise en compte des valeurs, ce qu'il appelle les valeurs, les habitudes de pensée. Et donc, il y a une dimension psychologique, culturelle, de ces vieux sentiments des peuples qu'on évoquait au XVIIIe siècle, qui apparaît avec Myrdal, qui passe assez inaperçu à l'époque, mais qui va prendre de plus en plus d'importance au fur et à mesure du développement de l'économie du développement.
Sachant que l'institutionnalisme, c'est un courant qui est né à la fin du XIXe siècle, je crois, qui était tombé en désuétude, Nicotte.
Plutôt, il y a eu la grande époque à l'aide des années 1890 ou des années 1930. Ça a été un peu abandonné et c'est revivifié dans le domaine de l'économie du travail d'une part et surtout dans le domaine de l'économie du développement avec des auteurs comme Hirschman et comme Myrdal.
Et quelles sont alors les institutions, Rémi Bazier, qui se mettent en place et quel rôle vont-elles jouer pendant ces années ?
Il y a d'une part les institutions politiques, évidemment, avec la mise en place des nouveaux États et la forme démocratique, plus ou moins démocratique, qui va être mise en œuvre. Il y a la question des systèmes, donc là on parle d'institutions formelles, mais des systèmes juridiques, ou en tout cas pour les pays qui sortent de la décolonisation, qui sortent de la colonisation, les systèmes juridiques vont finalement être calqués sur ceux qui préexistaient déjà. Donc il y a des institutions qui vont être importées et qui ne correspondront pas forcément aussi au contexte du pays. Et puis il y a la continuité d'un certain nombre d'institutions formelles avec des manières d'organisation aussi, notamment au niveau local, au niveau communautaire, du pouvoir d'une part, mais également du crédit ou de l'épargne. La manière d'épargner aussi pourra être différente dans un contexte ici local en fonction de croyances établies ou d'une situation culturelle.
Anicotte.
Oui, sur les institutions, il y a aussi les institutions internationales de l'après-guerre, donc les institutions monétaires et financières mises en œuvre, après les accords de Bretton Woods, principalement le FMI, la Banque mondiale, mais aussi les institutions régionales que met en place l'ONU très vite après la guerre, comme la CEPAL en Amérique latine.
Et alors justement, quel rôle vont jouer ces institutions précisément, Anicotte ?
Alors, ça va être un double rôle, qui est un rôle consistant d'une part à essayer de faire remonter des statistiques, des informations auprès des institutions internationales, mais également un rôle d'envoi d'experts, de ce qu'on a appelé les money doctors depuis les années 30, qui peuvent être des experts à l'écoute des structures locales de ces pays ou qui peuvent être des experts qui plaquent des schémas préétabli comme à l'époque du consensus de Washington.
Restons un petit peu sur cette réflexion de Myrdal. C'est intéressant de voir qu'il se situe vraiment dans une critique du discours économique dominant. Et là encore, on peut se poser la question de son parcours intellectuel, Rémi Bazilier, et aussi de la réception de ces critiques dans un panorama, dans un contexte de relatif consensus sur l'économie.
Alors, il y a un consensus, malgré tout, qui est tout relatif, puisque le consensus qui émerge au sein des économistes du développement après la Deuxième Guerre mondiale, ou consensus, on va dire, développementaliste, est finalement très largement empreint d'une pensée hétérodoxe. Donc, on est, on va dire, les orthodoxes, tels qu'on peut les connaître dans d'autres champs de l'économie, sont très marginaux aussi dans l'étude du développement. Encore une fois, du fait de la spécificité propre des contextes particuliers de ces pays. Il y a évidemment une remise en cause des règles de l'analyse, en tout cas des règles de fonctionnement de marché. Et ça, c'est quelque chose qui va petit à petit, qui va sembler évident. La théorie économique standard se fonde sur un certain nombre de lois, la loi de l'offre et de la demande, dans lequel un prix va se fixer. Tout ça n'a pas de réalité ou n'a pas de contexte dès lors que les marchés en question n'existe pas. Et donc c'est en ça que effectivement cette pensée va se construire en opposition, on va dire, à la théorie standard telle qu'on peut la connaître. Mais il existait quand même un consensus assez solide entre ces différents auteurs pour reconnaître aussi le rôle à des acteurs, notamment l'État, hors marché, qui pouvait avoir un rôle d'impulsion aussi très important.
Et donc ce que vous dites, c'est qu'il y a aussi un changement de méthode. On passe d'une science économique qui s'appuie beaucoup sur des calculs à une science économique qui va avoir une approche plus empirique, Anicott ?
Plus empirique et plus interdisciplinaire. Hirschman parle de mono-économisme à propos des économistes standards nord-américains essentiellement à cette époque, et propose d'utiliser ce qu'il appelle une lanterne empirique, c'est-à-dire propose de regarder avec un regard non pas neuf, mais qui ne soit pas travaillé par cette économie standard, les économies du tiers-monde. Et à cet égard, il va commencer à parler de rationalité cachée, de la nécessité du déséquilibre, de liens entre les secteurs, et donc il va mettre au jour toute une série de modes de fonctionnement qui sont complètement différents de ceux que décrit la théorie standard autour des mécanismes de marché.
Il y a cette idée de qu'il faut régler les problèmes au cas par cas, selon le contexte national, Rémi Basilier, qui émerge.
Il y a effectivement qu'il faut prendre en compte ce contexte et qu'il faut prendre en compte la situation et l'organisation spécifique des marchés. Après, malgré tout, il y a quand même cette idée que la logique d'accumulation du capital reste clé. Et beaucoup de ces auteurs-là, avec des manières très différentes et des propositions très différentes, vont quand même rester sur cette idée que finalement, il y a un décollage économique, ils ne l'appelleront pas forcément comme cela, mais en tout cas une logique d'accumulation qui reste nécessaire. Et ça, il faudra peut-être attendre un petit peu plus tard aussi pour remettre en cause cette logique clé de l'accumulation aussi dans l'analyse et le rôle du développement.
France Culture. Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Roquigny.
Yang menghias paras bening Dewi Rati di sudut bibirmu kulukiskan garah cintaku yang bertahun simpulkan di dalam dada hamba mencari ilham di tepian wajahmu lagu indah bersulang kan ku jalin bagimu di sudut bibirmu kau sebarkan wangi puspita yang meresap sampai jauh di lubuk kau.
Vous écoutez Dissoudou de Bibir Mood, Sam Simon sur France Culture, dans Entendez-vous l'écho, une musique indonésienne qui était sortie en 1958. Les économistes Annie Cotte et Rémi Basilier sont toujours avec nous pour parler des pionniers du développement. Alors ce que l'on va observer, c'est que l'étude de ces économies en développement va aussi permettre d'apporter une nouvelle réflexion sur les économies industrialisées avec une forme de retour, Annie Cotte.
Oui, les deux grands exemples là, à part Gunnar Myrdal, sont Harvey Lippenstein, un professeur de Harvard, qui va faire sa thèse dans les pays du Sud, qui la publie sous le titre Economic Backwardness and Economic Growth, retard économique et croissance économique en 57, et où il va inverser, il va se rendre compte que les outils très classiques de l'économie traditionnelle, comme l'idée que le salaire dépend de la capacité productive du travail, des choses qu'on traîne depuis des années, ne fonctionnent pas dans les pays du tiers-monde. Et on dit, en fait, le salaire, c'est la nourriture. Si on ne nourrit pas les gens, ils ne vont pas pouvoir travailler. Et donc, il va travailler, il va écrire cet ouvrage. Et en revenant aux États-Unis, il va se dire, mais après tout, c'est la même chose. Et donc, c'est les théories qu'on va appeler du salaire d'efficience, consistant à dire, mais si on paye mieux les gens, au-dessus du prix de marché, ils vont travailler plus. Et peut-être que dans ce stade de l'évolution des relations économiques modernes, c'est la solution. Donc il y a comme les autres domaines que j'ai cités au début, il y a un effet de retour où l'économie du développement nourrit en retour la réflexion économique dans les pays du centre.
Là où effectivement on pensait que ce serait plutôt ce modèle développé par les pays industrialisés qui devrait être adapté aux pays en développement, Rémi Basilier.
Tout à fait, il y a beaucoup de concepts théoriques qui sont aujourd'hui dominant dans l'économie standard, traditionnelle. Je pense à la question des imperfections de marché, même si on ne l'appelait pas forcément de cette manière-là à l'époque. Ces situations dans lesquelles finalement le marché est incapable de produire l'équilibre ou la situation optimale. Et ça, c'est effectivement des situations dans toute leur diversité dans lesquelles les pays en développement ont constitué un premier exemple. Et parce que ces imperfections de marché sont clairement aussi exacerbées dans des situations où dans beaucoup de cas, les marchés n'existent tout simplement pas. Et ça a pu apporter aussi à d'autres économistes à réfléchir sur les questions de crédit, sur les questions de marché du travail, telles que ça a été évoqué, sur les questions d'organisation au sein des entreprises, c'est effectivement l'économie du développement qui irrigue le reste de l'économie.
Annie Cotte.
Y compris dans des perspectives critiques. Lippenstein, toujours, voit que l'organisation des ressources dans les pays du tiers-monde ne se fait pas bien. Hirschman voit qu'il y a ce qu'il appelle d'un joli mot fracassomania, le complexe de l'échec dans des pays du Sud, c'est-à-dire que même lorsqu'ils ont les outils, les dirigeants ne savent pas les manipuler. Et ces théories, revenant aux États-Unis, vont donner la théorie centrale en théorie des organisations de X-Efficiency de Lippenstein, par exemple, et toutes les critiques que Hirschman adressera au fonctionnement des économies du centre par la suite.
On parlait tout à l'heure de la réflexion de l'économie Mr. Ragnar Nurk, sur le fait que le facteur majeur pour lui du manque de développement, c'est la pénurie d'épargne des habitants. Quelles autres explications on a de cette difficulté à accumuler le capital et qui devrait permettre, si accumulation du capital il y avait, si investissement suffisamment il y avait, de lancer véritablement ces économies en développement?
Ce qui est intéressant dans l'analyse de Nurk, c'est effectivement cette logique de cercle vicieux du développement. C'est dire que parce qu'effectivement l'épargne est insuffisante, alors il sera impossible d'investir suffisamment pour permettre à l'appareil productif de se moderniser. Mais au-delà de ça, c'est aussi la logique d'accumulation en termes de capital humain, en termes d'éducation, qui est aussi une source aussi très importante de développement et aussi de gain de productivité. Et donc c'est cette incapacité de l'économie dans son ensemble à investir qui constituera un blocage en termes de développement. Ce que je trouve intéressant dans cette analyse-là, c'est aussi d'abandonner l'idée que le développement puisse être perçu comme un phénomène linéaire, c'est-à-dire qu'on part d'une situation dite de sous-développement pour arriver de manière plus ou moins naturelle à une situation de développement, et qu'il peut exister des situations très différentes dans lesquelles effectivement les comportements des agents économiques entre eux vont expliquer qu'on va pouvoir se retrouver soit dans un équilibre élevé, dit de développement, soit rester bloqué dans une, ce qu'on va appeler une trappe à pauvreté, d'une trappe à sous-développement. Et ça, c'est des analyses qui ont fait l'objet de beaucoup d'autres applications. Encore une fois, l'idée centrale, c'est de se dire que le développement n'est pas automatique et qu'il va falloir étudier de manière beaucoup plus fine les interactions entre les individus et l'État, entre les entreprises et les individus, pour réellement comprendre qu'est-ce qui va faire le succès d'une politique de développement.
Et cette économie du développement, elle s'inspire aussi, ou elle a pu s'inspirer d'une part du plan Marshall, de l'autre du plan de relance des années 30, ce qui pose là encore cette question des investissements, parce que comment faire de la relance keynésienne dans des économies très peu monétarisées, Nicotte ?
Alors, c'est intéressant que vous citiez le plan Marshall, parce qu'un des auteurs importants de cette époque, Hirschman, j'y reviens toujours, a travaillé pour le plan Marshall. Ça a été un grand résistant en Europe. Il arrive aux États-Unis, il est réenvoyé en Europe pour les premiers procès de dirigeants nazis, et ensuite il travaille avec la Fed pour la mise en place du plan Marshall, et il joue un rôle important avant de s'envoler pour la Colombie. Et donc ce parallèle avec le plan Marshall est tout à fait important, et avec le plan Marshall il y a l'idée qu'on se met en place une nouvelle forme de keynésianisme, très différente des thèses de Keynes, le keynésianisme des Américains, le keynésianisme des gens qui travaillent à la Fed, et qui va servir d'armature de base aussi bien aux travaux de Lewis pour une partie qu'aux travaux des hétérodoxes.
Et alors, dans quelle mesure le plan Marshall va-t-il inspirer une théorie du développement particulière à Hirschman, Rémi Basilier ?
Plan Marshall, il est intéressant dans la mesure où on est encore une fois dans une logique d'accumulation, avec dans une situation, dans le contexte des pays développés d'après-guerre, dans lequel le niveau de capital est insuffisant pour lancer le processus de développement, de reconstruction. Paradoxalement, on est quand même aussi très largement dans des théories de la croissance, le modèle Harrod-Domar notamment, qui a largement aussi inspiré les préconisations qui sont issues du plan Marshall, dans lequel on considère qu'il suffit d'augmenter l'investissement en capital pour augmenter durablement le taux de croissance. Donc on revient malgré tout à une analyse plus traditionnelle aussi de ces théories de la croissance. L'incapacité des pays à se développer étant vue au prisme de cette modélisation théorique comme étant une incapacité à accumuler du capital, ce qui pourra justifier dans une certaine mesure notamment les conseils ou les préconisations d'augmenter l'aide internationale. Donc l'aide internationale doit servir justement à ces pays d'accumuler suffisamment de capital dans un contexte où ils ne peuvent le faire. Mais on reste quand même très largement, en tout cas cette époque, sur une logique qui est finalement pas si lointaine des modèles de croissance traditionnels.
Alors il y a l'accumulation du capital, mais il y a aussi l'industrialisation qui est un véritable mantra des théoriciens du développement, avec cette idée que pour sortir de la spécialisation héritée, il faut pouvoir sortir de la spécialisation héritée du colonialisme, parce que cette spécialisation rend l'économie trop vulnérable, Nicotte.
Alors ça va être un fil qui est tiré successivement par Hirschman toujours, puis par les théoriciens de la dépendance dont vous allez parler demain, c'est-à-dire l'idée que la vieille théorie des avantages comparatifs dans le commerce international, consistant à dire que les deux pays qui échangent y gagnent, ne fonctionne pas. Pour le cas des pays du Sud, des pays de la périphérie, et qu'il y a une exploitation, si j'ose dire, des pays du Sud par les pays du Nord, par les pays du Centre, par les pays industrialisés. D'où une série de propositions de substitution d'importation, c'est-à-dire de création de structures industrielles, de marchés intérieurs qui permettraient de se passer des importations venant des pays du Nord.
Ce qui se passe un petit peu en Amérique latine pendant l'entre-deux-guerres.
En Amérique latine, oui, après la Deuxième Guerre mondiale surtout, Ça va être une des thèses fortes de la CEPAL, de cette institution des Nations Unies mise en place pour l'Amérique latine. Ça va être aussi la base des thèses que développe Hirschman sur ce qu'il appelle les linkages, c'est-à-dire les relations entre les secteurs qui vont l'amener à dire la croissance, elle peut être déséquilibrée, la croissance peut se passer dans un secteur et pas dans un autre. Ce sont les tensions, ce sont les dissensions, ce sont les déséquilibres qui sont un moteur d'évolution. Mmh. Et donc c'est du côté des tensions que se joue la possibilité du développement et non pas du côté d'une croissance équilibrée.
Donc pas de secteur prioritaire, mais un investissement dans plusieurs secteurs à la fois, Rémi Basilier.
Oui, alors, c'est quelque chose qui est commun à tous les auteurs de l'époque. Chez Arthur Lewis, le secteur moderne, par définition, c'est l'industrie. Et donc il y a cette idée que la modernité, c'est aussi l'industrialisation. D'autres auteurs vont aussi mettre l'aspect sur, de manière intéressante sur une caractéristique spécifique du secteur industriel, qui est notamment la logique de rendement croissant. C'est-à-dire qu'on va, en fait, c'est un secteur qui en fait sa spécificité, que plus on produit, plus on est productif. Et ça, c'est quelque chose qui va apporter aussi un changement majeur dans l'analyse du développement, dans la mesure où, pour permettre d'avoir des gains en termes de productivité, des gains en termes de croissance, alors il faut un marché d'une taille suffisante pour permettre, encore une fois, à la production de se moderniser.
C'est l'idée héritée d'Adam Smith, que les secteurs sont interdépendants et que du coup, si les secteurs se développent en même temps, on va avoir des rendements croissants.
Alors, c'est effectivement cette idée d'interdépendance, c'est là dans lequel Hirschman va revenir beaucoup sur le lien et on va dire d'externalité entre les différents secteurs, sur le fait que la croissance d'un secteur va pouvoir alimenter celle d'un autre secteur. Mais il y a aussi l'idée que la modernisation implique des investissements majeurs qui entraînent un certain nombre de coûts fixes pour l'industrie, et que ces coûts fixes, pour pouvoir être payés, il faut pouvoir écouler une production en grande quantité. Et pour pouvoir écouler une production en grande quantité, il faut avoir un marché d'une taille suffisante. Et ça, c'est ce qui, on parlera peut-être du Big Push, mais dans lequel la théorie du Big Push revient sur cette idée qu'il faut que l'industrie puisse bénéficier d'un marché d'une taille suffisante pour pouvoir se développer.
Allez, on va écouter ce qu'écrit Hirschman dans les années 80.
Quand j'ai reçu une invitation à participer au colloque en qualité de pionnier aux côtés de Raoul Prebisch, Gunnar Myrdal, Arthur Lewis et d'autres sommités de l'économie du développement, ma première réaction a été celle de la surprise. Ce n'est pas que je doutais de mon statut de sommité, mais dans mon esprit, je me considérais encore comme un rebelle contre l'autorité, comme un dissident de la deuxième génération à l'égard des propositions qui, elles-mêmes nouvelles et hétérodoxes, prenait rapidement, dans les années 50, le chemin de devenir une nouvelle orthodoxie sur les problèmes de développement. Mes idées, jadis téméraires et révoltées, étaient-elles devenues classiques et respectables, tristement honorables et ennuyeuses, comme dans la complainte de Nietzsche? Peut-être. De toute façon, il me fallait revoir quelque peu la vision que j'avais de moi-même. Dans cette perspective, ma dissidence, aussi forte fut-elle, avait la nature d'une objection au sein d'un mouvement général des idées qui cherchait à faire de l'économie du développement un nouveau domaine d'études et de savoir.
Annie Cotte, Hirschman, a-t-il vraiment été un dissident? Est-ce qu'il faut le considérer comme tel parmi les pionniers de l'économie du développement?
Un dissident, non. Un hétérodoxe au sens propre, c'est-à-dire quelqu'un qui s'affronte aux orthodoxies méthodologiques, analytiques. C'est quelqu'un, par exemple, qui va chercher ce qu'il appelle des rationalités cachées dans les économies du Sud, et donc trouver de la rationalité et des façons de se développer dans le secteur informel, dans le lien entre secteur informel et secteur industrialisé, les autres ne voyaient pas.
Qu'est-ce que ça désigne, cette rationalité cachée? Quel exemple on peut en donner?
Tous les exemples par lesquels ces pays se débrouillent. C'est-à-dire que ces pays se débrouillent pour en fait se développer, pour en fait nourrir la plupart des populations, avec des trucs au sens mécanique du terme, avec des systèmes informels qui permettent non seulement aux populations de survivre, mais qui permettent aussi parfois au secteur moderne de se développer. Et donc cette idée de lanterne empirique que j'évoquais, ou cette méthode institutionnaliste multidisciplinaire qu'il évoque, qui est à l'opposé de ce qu'il appelle les économistes visitants, qui est envoyé par le FMI, la Banque mondiale, qu'ils critiquent énormément en disant voilà, ils viennent passer une semaine, ils appliquent leur schéma, ils repartent. Et donc l'idée qu'il faut vraiment creuser pour voir par où les stratagèmes de développement peuvent se faire sans appliquer un schéma préexistant est une idée qui, à l'époque, était fondamentalement hétérodoxe.
Et en cela, la mission qu'il a menée à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement à Bogota, en Colombie, va être absolument déterminante pour lui, pour élaborer sa théorie.
Les 5 ans de Colombie, oui, il est d'abord à la mission et puis ensuite il reste en gagnant sa vie autrement. Les 5 ans de Colombie et les voyages qu'il fait à ce moment-là donnent lieu à une trilogie importante d'ouvrages sur le développement en Amérique latine et ensuite donneront lieu, Hirschman a toujours aimé revenir, on le voyait avec l'extrait que vous venez de passer, revenir sur ses thèses, se remettre en question, réfléchir, reformuler et donc donneront lieu ensuite à une série d'interventions, d'articles et de livres sur ce qu'il disait à l'époque sur le développement. Mais fondamentalement, cette idée qu'il y a des rationalités croisées, que la théorie économique doit s'appuyer sur une croissance déséquilibrée, ces fondamentaux vont paver la route pour une économie du développement non standard, non orthodoxe, qui va durer pendant une 30aine d'années.
Alors avant de venir effectivement à l'héritage de ces penseurs du développement, quelles sont d'abord les critiques qui vont émerger dans les années 60, Rémi Basilier, à l'égard des politiques économiques qui s'appuient sur le développementalisme? Quel bilan on fait déjà de l'efficacité de ces politiques?
Alors, déjà, même si je pense que ces auteurs étaient convaincus du fait que la croissance n'impliquait pas forcément le développement. Le fait que finalement on reste sur un objectif de croissance en prenant en compte les spécificités institutionnelles, bah les premières critiques qui ont émergé, c'est le fait que dans un certain nombre de contextes, il y a pu avoir croissance sans développement tel qu'on l'entend, c'est-à-dire sans amélioration de la qualité de vie, du niveau de vie des populations, avec des situations de sous-emploi qui restent manifestes, avec des problèmes de pauvreté et d'inégalités qui sont criants, de problèmes d'éducation, de problèmes de santé. Et ça, finalement, c'est peut-être aussi intrinsèquement lié à l'idée que la notion du développement était finalement vue d'un point de vue très macroéconomique. Donc on partait de la situation des pays, tout en prenant en compte aussi un certain contexte institutionnel, mais qui, dans lequel finalement le développement était défini au niveau global et non au niveau individuel. Donc ça, c'est une première peut-être limite. Mais c'est une critique qui interviendra plus tard sur l'efficacité en tant que telle de ces politiques et notamment des stratégies d'industrialisation dans lesquelles, pour toute une série de raisons qui mériteraient d'être discutées plus longuement.
Et peut-être aussi au cas par cas, pays par pays.
Exactement. On retombe finalement aussi dans le travers dans lequel effectivement ce qui a pu fonctionner en Asie du Sud-Est ne fonctionnera pas de la même manière en Afrique subsaharienne. Il y a aussi ces différentes théories ont été appliquées de manière extrêmement différente. Et ces stratégies d'industrialisation n'ont rien à voir finalement dans la manière dont elles ont été menées, que ce soit en Asie du Sud-Est ou en Amérique latine par exemple. Dans certains contextes effectivement ces politiques n'ont pas forcément été très efficaces pour toute une série de raisons qui mériteraient d'être analysées.
Mais on assiste à cette époque-là à un retour en grâce de ce qu'on pourrait appeler la théorie de la croissance avec des économistes comme Robert Solow et c'est cela qui fragilise les développements mentaliste, ce mot n'est pas simple. Rémi Basilier.
Solow, il y a une sorte de paradoxe parce que son article est fondateur sur la théorie de la croissance de Solow est publié en 1956. Cependant, il aura finalement une influence très mineure dans l'économie du développement jusqu'au retour en grâce de l'économie néolibérale après, en gros, début des années 80. Et donc le retour finalement à Solow se fera plutôt encore quelques décennies après, avec cette idée finalement que il n'est pas possible, la croissance finalement à long terme se fait de manière plus ou moins naturelle et dans lequel va y avoir un processus de convergence plus ou moins automatique entre pays pauvres et pays riches et qu'il suffirait à ces pays d'avoir les bons fondamentaux pour atteindre le niveau de revenus des pays riches. Mais du point de vue ici de l'analyse et de toute la richesse de la pensée développementaliste, Solow est un peu un retour en arrière par rapport à la spécificité de l'économie du développement.
Anicotte.
Oui, je pense qu'il y a un autre changement qui s'appuie sur une critique de ces premières théories, c'est un changement de perspective. Les années 60 et 70 vont se centrer sur ce que Arguiri Emmanuel va appeler l'échange inégal, c'est-à-dire les relations entre le centre et la périphérie. Et donc on ne va plus s'intéresser aux conditions structurelles internes à une économie donnée du développement, mais on va prendre en compte cette asymétrie économique de richesse, de politique et de pouvoir également, c'est pour ça que la conférence de Bandung est importante, entre les pays du Nord et les pays du Sud. Et donc là, toutes les théories dont vous parlerez demain et d'autres dont vous ne parlerez peut-être pas, qui sont plus radicales, Samir Amin, Gunder Frank, etc., vont mettre l'accent sur cette inégalité structurelle de l'échange. Et là, on revient à la question que vous posiez tout à l'heure de la colonisation et du néocolonialisme.
Il y a beaucoup de facteurs macroéconomique qui explique que dans les années 70 et 80, ces théories développementalistes sont remisées au placard, Rémi Basilier.
Tout à fait. Il y a d'une part, on va dire, un changement de paradigme qui n'est pas propre à l'économie du développement. Hein. C'est aussi une critique des théories keynésiennes dans le champ de la macroéconomie et donc un retour en force ici de la pensée néolibérale qui se manifestera notamment dans le contexte de développement par le fameux consensus de Washington dans lequel finalement on appliquera une recette unique dans les années 80 et 90 aux pays, à l'ensemble des pays en développement, notamment ceux qui sont dans une situation d'endettement. Malgré tout, tout cet héritage de ces pionniers du développement restera très important, notamment après les années 2000, lorsque émergera aussi d'autres champs d'analyse, notamment, j'ai évoqué tout à l'heure la question des institutions, et qui sont aujourd'hui très actuelles dans l'analyse du développement, qu'on doit aussi à cette différente analyse qui a été faite par ces différents auteurs.
Alors justement, qu'est-ce qu'on peut dire de cet héritage, de cette pensée du développement telle qu'elle a été formulée dans les années 50? Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui, selon vous, Anicotte?
Un accent sur les institutions qui est essentiel, la prise en compte d'un cadre global, l'idée que la théorie économique ne peut pas être unique, universelle et s'appliquer en tout temps et en tout lieu à toutes les situations concrètes.
C'est donc le rôle de l'histoire dans l'analyse économique.
C'est le rôle de l'histoire, c'est le rôle de la prise en compte des institutions et c'est le rôle, encore une fois, de démarches plus, je n'aime pas le mot empirique, mais plus bottom-up, qui partent d'observations.
Du bas vers le haut.
Vont du bas vers le haut et qui vont donner naissance à ces courants beaucoup plus récents sur les capacités d'Amartya Sen, dont je pense que vous allez parler, donc sur l'idée qu'il faut voir si les individus sont en capacité d'exercer un pouvoir économique. Il prend l'exemple de cette famine en Inde à laquelle il assiste quand il a 9 ans et il dit que les individus avaient le droit d'acheter mais n'avaient pas les moyens d'acheter. Donc voilà, cette liberté n'existait pas. Ou alors les expériences randomisées du Djipal et de Esther Duflo et Habit Banerjee.
Dont on parlera en effet jeudi, Rémi Basilier, sur cet héritage, effectivement, c'est une base sur laquelle va s'appuyer notamment Amartya Sen.
Oui, on va dire la pensée d'Amartya Sen, donc qui va repartir du concept de développement, notamment au niveau de l'individu, avec la définition du développement comme étant une liberté de la capacité de faire des choix pour les individus, s'appuie aussi sur des contextes locaux et son expérience aussi en Inde sera déterminante dans l'émergence de cette pensée. Reste encore une fois ce contexte institutionnel et sur la nécessité de prendre en compte la situation réelle des individus.
On va continuer à parler des différentes formes que prend cette économie du développement dans les prochains jours. Un grand merci à tous les deux.
Merci.
Et c'est l'heure de retrouver le journal de l'Écho. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
10 000 suppressions d'emplois annoncées chez HSBC, la plus grande banque britannique en pleine restructuration, comme beaucoup d'autres établissements européens cette année, Xavier.
En effet, pour HSBC, en tout cas, ces 10 000 postes s'ajoutent à 4 000 annoncés en août au moment de la démission surprise de son directeur exécutif. La banque évoque un recentrage sur l'Asie avec, je cite, des rendements à deux chiffres. Alors pour l'instant, c'est à peine, on pourrait dire, 6% des effectifs, 248 000 personnes. personnes. Mais c'est vrai que ces restructurations s'ajoutent à d'autres annonces cette année en Europe. 18 000 suppressions chez la Deutsche Bank en juillet, c'est le plus grand plan social de son histoire. 3 000 suppressions à la Barclays, également à la BNP Paribas qui supprime, elle, 20% de ses effectifs en France. Alors parmi les causes, l'italienne UniCredit, la Suisse UBS ou l'allemande Commerzbank ont toutes pointé la politique de taux bas en Europe. Vous savez, ces taux même négatifs pour les taux directeurs à moins 0,5%, cité comme un des facteurs d'affaiblissement des revenus bancaires. C'était le cas aussi en août dans l'argumentaire d'HSBC. Pour Jezabel Coupé-Soubéran, en tout cas économiste à l'Université Paris 1, les banques tout simplement exagèrent. Écoutez-la.
Le plus probable aujourd'hui, c'est que ces grandes banques européennes font plutôt face à un problème de rentabilité structurelle. Et donc le problème ne se réduit absolument pas au taux négatif. Parce que certes, les taux bas à la fois à court terme et à long terme, ça écrase un peu la marge d'intermédiation de ces établissements. Mais ces établissements continuent de facturer les crédits à un taux supérieur à celui de leurs ressources. Donc leur marge d'intermédiation, elle n'est pas nulle. Surtout, plus ces établissements sont grands, et HSBC c'est un grand établissement, c'est un établissement systémique à cheval sur plusieurs activités. L'activité de ce type d'établissement ne se réduit absolument pas aux activités de détail. Et au fond, plus ces établissements sont grands, et moins ils sont touchés aujourd'hui. Il ne faut pas oublier non plus que ces taux bas sont la conséquence des politiques monétaires de gestion de crise, donc des politiques monétaires qui ont été adoptées en réponse à la crise financière de 2007-2008, crise à laquelle ces grands groupes bancaires ne sont pas étrangers. Donc les banques pâtissent aujourd'hui un peu de difficultés qu'elles ont contribué largement à installer.
Et en tout cas, les activités de détail ne sont pas les seules victimes de ces restructurations bancaires.
Oui, on en avait parlé parce que c'était le cas effectivement pour la Commerzbank, que HSBC France avait aussi passé une revue de ses activités de détail. Mais cette fois, HSBC Le Siège supprime des postes à haut salaire. La Société Générale annonçait, elle, des suppressions au back-office ou au siège. Quant à la japonaise Nomura Holdings, en début d'année, elle envisageait la suppression d'une centaine de postes de traders sur toute l'Europe. Alors à suivre avec les résultats trimestriels de HSBC, le 28 octobre.
On passe au bref avec une offensive de la Maison Blanche pour promouvoir le gaz américain en Europe.
Oui, avec le secrétaire d'État à l'énergie Rick Perry à Vilnius pour un forum sur le gaz qui critique aujourd'hui le projet de gazoduc de la Baltique Nord Stream 2 de la Russie vers l'Allemagne qui, dit-il, portera un coup puissant contre la diversité et la sécurité énergétique de l'Europe. Cette diversité précisément dans laquelle les États-Unis espèrent tenir une bonne place face à la Russie qui représente encore 47% des importations européennes, la Lituanie et la Pologne sont les deux seuls pays pour l'instant à importer du GNL américain peu coûteux. Les États-Unis, eux, devraient dépasser cette année l'Australie pour devenir premier producteur mondial.
Et pour finir, va-t-on vers une guerre de la grande distribution aux Antilles françaises ? Le paysage commercial se remplit.
On va se remplir avec l'arrivée prévue en janvier 2020 de trois enseignes Leclerc en Guadeloupe, dernier des grands groupes métropolitains à s'implanter dans la région avec déjà Carrefour ou Géant, et à venir tenter de faire baisser le panier moyen de 12,5% plus cher qu'en métropole. C'est l'enjeu de la visite du président du groupe Michel-Édouard Leclerc à Pointe-à-Pitre aujourd'hui, groupe féroce avec ses fournisseurs et qui devra, comme ses concurrents, s'insérer dans une chaîne de distribution réputée opaque et, comme eux, s'acquitter aussi de l'octroi de mer, une taxe régionale spécifique au sujet de laquelle le patron affirme à l'AFP en avoir parlé au ministère des Finances et que, je cite, ils vont s'occuper de ça.
Merci beaucoup Xavier Martinet, on peut réécouter votre journal de l'écho sur franceculture.fr et en podcast.
It's a bittersweet symphony, this life. Try to make ends meet. You're a slave to money, then you die. I'll take you down the only road I've ever been down. You know the one that takes you to the places where all the veins meet. Change, I can change, I can change, I can change, but I'm here in my mold, I am here in my mold, but I'm a million different people from one day to the next, I can't change my mold, no, 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 'cause it's a bittersweet symphony, this life, 'cause it's a bittersweet symphony, this life,
Bittersweet Symphony de Gomper and Dandoni. Merci beaucoup Anicotte et Rémi Basilier de nous avoir accompagnés aujourd'hui pour cette première émission de notre série sur les promesses du développement. Demain, on évoquera le tabou du protectionnisme. Les économies en développement doivent-elles se protéger pour émerger enfin? On posera la question à El Mouhoud Mouhoud et Kako Nabucco. D'ici là, n'hésitez pas à écouter ou réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho. I let them out.